L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Avant de démarrer l'entretien avec mon invité d'aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur les dernières nouvelles concernant la sécurité alimentaire en Afrique. Un navire transportant 25 000 tonnes de céréales en provenance de Russie est arrivé le 30 novembre à Mogadiscio, en Somalie. La Russie tient ainsi la promesse faite par son président en mars dernier. Vladimir Poutine avait déclaré que la Russie sera prête à fournir gratuitement des céréales aux pays africains dont le besoin pour une quantité égale aux livraisons dans le cadre de l'accord céréalier si ce dernier n'est pas prolongé. Lors du sommet Russie-Afrique de juillet, le président russe Vladimir Poutine a réitéré cette intention. Les deux premiers navires chargés de 25 000 tonnes de blé chacun ont quitté la Russie à la mi-novembre. Le premier, comme je l'ai déjà dit, est arrivé en Somalie. Le second est attendu au Burkina Faso dans les prochains jours. Les navires à destination de la République centrafricaine, du Zimbabwe, du Mali et de l'Érythrée seront expédiés d'ici la fin de l'année 2023, a déclaré le ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev. La Somalie remercie Moscou pour son aide humanitaire, a déclaré à Spoutnik Afrique le ministre somalien de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Dodd Aves, dans un commentaire écrit.
Nous sommes reconnaissants pour la livraison de 25 000 tonnes de céréales qui bénéficieront grandement aux milliers de Somaliens touchés par les inondations actuelles résultant d'El Niño. Cette aide arrive à un moment crucial. Une fois de plus, nous félicitons la Russie pour son soutien substantiel et son engagement indéfectible à aider la Somalie à surmonter cette période difficile.
Pour commenter l'arrivée du premier navire transportant des céréales russes, nous avons contacté Hassan Magateseye, avocat malien, membre du think tank Union nationale pour l'initiative et la réflexion. Hassan Magateseye, bonjour et merci d'avoir répondu présent à notre invitation.
Bonjour.
Bien, alors, par rapport à cette livraison de céréales russes à certains pays africains, déjà, il y a une cargaison qui vient d'arriver en Somalie avec une quantité de 25 000 tonnes. Alors, dans les conditions actuelles, avec tous les problèmes qui se trouvent dans la mer Noire, en conduction, par conduction de l'accord céréalier, comment voyez-vous, quel commentaire vous pouvez faire sur cette première livraison?
D'accord. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur votre chaîne. C'est toujours un plaisir. Et ce qui est marquant par rapport à cet événement, c'est le fait que justement, une fois de plus, on a des États, notamment la Russie, qui tient ses engagements. C'est déjà la première chose qu'il faut dire. Parce que quand on regarde la situation de la Somalie aujourd'hui et tout ce qu'elle traverse, c'est d'abord un signe de solidarité. Et les engagements qui ont été pris, notamment au sommet qu'il y a eu entre la Russie et certains pays africains, qu'on a appelé le sommet Russie-Afrique. Il y a d'autres pays aussi, comme justement le Mali, le Burkina, l'Érythrée, qui doivent recevoir aussi chacun à peu près 25 000 tonnes.
D'accord.
Donc le fait de voir que cette cargaison somalienne est arrivée à bon port, sans mauvais jeu de mots, ça prouve non seulement que les engagements pris sont respectés, mais ça montre également que cette dynamique et ces promesses qui ont été prises n'ont pas été prises simplement dans les discours, mais il y a des actes concrets qui sont en train de suivre. Donc les céréales, il me semble qu'elles sont arrivées le 30 novembre à Mogadiscio, selon l'Agence d'information nationale qu'est la SONA. Et c'est une aide indispensable, parce que comme je vous le disais un peu plus tôt, il y a eu des inondations dans le pays. Et la cargaison a été remise à l'Agence somalienne de gestion des catastrophes, qui est la SODMA. Vous avez également parlé du Mali, du Burkina, de l'Érythrée.
Il y a aussi la RCA, la République centrafricaine.
La République centrafricaine. Et ça, normalement, ça va être expédié également d'ici la fin de l'année 2023. Mmh. Bon, si on se fie aux déclarations du ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev, qui, lors d'une visite du ministère de l'Agriculture au Forum international, avait fait cette déclaration-là. Mais vu ce qui est déjà en train de se passer, on peut avoir confiance, on peut espérer que les choses vont aller dans le sens du discours. Donc je pense que c'est déjà, dans un premier temps, une excellente chose. Mmh. C'est une promesse tenue. Maintenant, on verra dans cette élan de solidarité-là qu'est-ce qui pourra être fait dans les années à venir et espérer que d'ici une dizaine d'années, peut-être que justement ces pays-là puissent à leur tour faire des dons à d'autres pays en Afrique ou même, pourquoi pas, vers la Russie, même si on n'en est pas là, c'est symbolique. La Russie n'a pas forcément besoin de ça. Et si on arrive à terme, je pense, avec beaucoup d'espoir, que dans une dizaine d'années maximum, on peut atteindre une autosuffisance alimentaire pleine et entière, et qu'à notre tour, nous pourrons faire des gestes dans ce sens-là.
D'accord. Mais il y a quand même une question, je crois que l'idée que vous avez soulevée est très importante, c'est le fait d'avoir tenu ces promesses. Est-ce que ce n'est pas un nouveau paradigme? On peut dire que le président russe ou la Russie est en train d'apporter un nouveau paradigme dans les relations internationales.
Bon, nouveau, oui et non. Nouveau par rapport à ce qu'on connaissait ces dernières années, mais pas nouveau par rapport à la Russie.
D'accord.
On a des relations de très longue date avec la Russie, depuis les années 60. Par exemple, au Mali, même la première compagnie d'exploitation minière qui était la Sonarem, c'était avec la Russie. Lorsqu'on avait le franc malien, c'était produit dans les pays de l'ex-URSS. Donc, on a déjà eu à travailler, à collaborer et à échanger avec la Russie, et que ce soit avec le président Poutine actuel ou les présidents qui l'ont précédé et qui étaient là à l'époque, il y a eu toujours cette constance-là. Mmh. Et sur le plan militaire, c'est pareil. C'est pas une nouveauté. On avait beaucoup de collaboration militaire avec la Russie, justement. Et à l'époque, bon, ça c'est des choses, si on le dit aujourd'hui, ça peut surprendre. Mais il faut savoir que le Mali était une puissance militaire telle qu'on a des pays comme l'Algérie, qui se sont fait appuyer pour, notamment pour leur lutte pour l'indépendance via le FLN. On a des pays comme le Maroc et le Vietnam qui, à un moment donné, sont également venus pour demander de l'aide, même si ce n'était pas militaire, c'était plus économique. Donc, le monde a tendance à changer, la géographie a tendance à bouger, mais les amis d'hier sont encore les amis d'aujourd'hui et normalement seront les amis de demain. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture avec la Russie qui, selon moi, n'était pas forcément le meilleur choix. C'est-à-dire qu'au sortir des périodes coloniales, il y avait deux blocs. Donc il y en a qui ont préféré rester dans le giron de l'ancien pays colonisateur et le Mali ne se fait pas se faisait pas beaucoup d'illusions, notamment la Guinée également, le Ghana. Donc il y avait même une alliance qu'on avait créée à l'époque, les États-Unis d'Afrique, mais c'était que trois pays, Mali, Ghana, Guinée. Et on avait d'excellents rapports avec la Russie. Malheureusement, ça n'a pas pu durer parce que les systèmes ont été renversés. Mmh. Et on est re-rentré dans la politique française, le système français.
D'accord.
Mais vous avez raison, la question est pertinente dans la mesure où on avait, par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres espaces de collaboration, ce n'est pas le même paradigme. Mmh. C'est-à-dire que parfois, non seulement il n'y a même pas de promesses, ou lorsqu'il y a des promesses, elles sont envoyées à des calendes grecques ou conditionnées à énormément de choses.
D'accord.
Un exemple simple, à titre vraiment très illustratif et sans vouloir être long, on va vous apporter par exemple de l'aide pour le système éducatif, et on va vous dire que dans votre programme, il faut que vous puissiez apprendre que les garçons peuvent être avec les garçons, les femmes avec les femmes. Bref, des choses qui ne sont pas forcément en phase avec nos réalités.
Oui, oui.
Mais ce sont des conditions sine qua non de l'aide. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Et je pense que la Russie fait montre du respect aussi des valeurs de ces États-là. Et ça, c'est extrêmement important. Au-delà des rapports commerciaux, économiques et politiques, il y a le respect de la culture, de la tradition de l'autre. C'est un très bon modèle. On sait qu'aujourd'hui, pour ne pas justement dépendre de l'extérieur, plus de 90% de ce qui est consommé en Russie est produit en Russie.
D'accord.
Et il faut qu'on tende vers ça, inexorablement. C'est une obligation si on veut véritablement amorcer un développement. Et le fait qu'il y ait cette expérience russe et qu'il y ait ces rapports cordiaux entre les différents États et la méthode peut nous permettre effectivement d'accélérer les choses dans ce sens.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Hassan Magatisseye, et j'espère vous retrouver prochainement dans un autre entretien. À bientôt. C'était Hassan Magatisseye, avocat malien, membre du think tank Union nationale pour l'initiative et la réflexion. Nous allons poursuivre le sujet de la sécurité alimentaire en Afrique lors de notre prochain entretien. Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Bamako le professeur Al-Husseini Brotodo, fondateur du laboratoire d'agrophysiogénétique et de biotechnologie végétale de l'université de Katibougou au Mali. Membre fondateur également de l'Académie des sciences du Mali et grand officier de l'Ordre national du Mali. Il est également l'ancien secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Avec lui, nous allons parler de l'agenda environnemental global et de son impact sur l'économie africaine, notamment dans le cadre de la COP28 qui se tient à Dubaï. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Cette année, la réunion de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, connue sous le nom de Conférence des parties ou COP, devrait être la plus importante jamais organisée à ce jour. Le pays hôte, les Émirats Arabes Unis, reçoit du 30 novembre au 12 décembre plus de 70 000 participants à cette COP28. Les dirigeants du monde réexaminent leur engagement à réduire les émissions de carbone à la fin d'une année marquée par des événements climatiques records. L'augmentation drastique du financement climatique et l'accélération de la transition énergétique sont des priorités également. Le sommet de cette année marque la fin du premier bilan mondial, une évaluation sur 2 ans des progrès accomplis vers le respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique de 2015. Les pays prévoient de mettre en œuvre le fonds pour les pertes et dommages créés lors de la conférence de Paris de l'année dernière qui fournira une aide financière essentielle aux pays les plus vulnérables aux méfaits du changement climatique. Les discussions incluent l'envoyé américain pour le climat John Kerry et l'envoyé spécial chinois pour le changement climatique Qi Jianhua, qui représente les 2 plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre. À la veille du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique de novembre, Washington et Pékin ont convenu d'accélérer leurs engagements en matière de réduction des émissions de méthane et d'autres gaz à effet de serre et de relancer le groupe de travail sur la coopération climatique. Les experts affirment que les problèmes actuels entre les États-Unis et la Chine définiront le cadre des accords sur le climat lors de la COP28. Les Émirats arabes unis ont proposé 4 thèmes clés pour la COP28. La transition énergétique, le financement climatique, l'adaptation au changement climatique et résilience et enfin l'inclusivité. Ainsi, comment se situent les pays africains face aux exigences des accords sur le climat ? L'Afrique a-t-elle reçu des pays riches les aides financières nécessaires pour faire face aux frais de la transition énergétique ? Qu'en est-il également des dégâts climatiques comme la sécheresse et le stress hydrique et la dégradation des sols agricoles? Pour répondre à toutes ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir depuis Bamako le professeur Al-Husseini Brotodo, fondateur du laboratoire d'agrophysion génétique et de biotechnologie végétale de l'université de Katibougou et ex-secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Professeur Al-Husseini Brotodo, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour Monsieur Kamal, et c'est à moi de vous remercier. Et je remercie au passage tous vos auditeurs pour le temps qu'ils vont passer à m'écouter.
C'est nous qui vous remercions et tout le plaisir est pour nous. Bien, alors la première question, professeur Brotodo. Historiquement, chaque COP se termine par l'adoption par les pays participants de protocoles, d'accords ou de résolutions formelles. Et par exemple, lors de la COP21, les pays ont adopté l'accord de Paris de 2015 qui fixe la norme actuelle en matière de réduction des émissions de CO2. Alors toutefois, ces engagements ne sont généralement pas juridiquement contraignants et les sommets précédents se sont terminés, comme d'habitude, sans objectif précis. Ce cas a été examiné lors de la COP 15 à Copenhague au Danemark, lorsque les pays n'ont pas réussi à fixer d'objectifs pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors, en ce qui concerne les pays africains, c'est ça qui nous intéresse justement. Alors, est-ce que les pays africains ont reçu l'aide qui leur a été promise pour s'inscrire dans les objectifs des différentes COP, sachant que l'Afrique, de par sa faible industrie, n'a jamais contribuer à la dégradation du climat?
Bon, je vais peut-être modérer un tout petit peu ce que vous avez dit. L'Afrique contribue peut-être en quantité infinitésimale à la production de gaz à effet de serre, mais il faut reconnaître que cette contribution est très marginale par rapport vraiment à ce qui est produit par les pays développés, notamment le premier pollueur qui est à savoir les États-Unis et la Chine, les deux premiers pollueurs. Ce que l'Afrique produit est vraiment, est presque, je dirais, insignifiant. Quand cela ne tienne, je crois qu'aujourd'hui, c'est les Africains qui payent le plus lourd tribut. Et vous savez, en fait, toutes les actions qui sont menées, je pense, c'est mon avis personnel, peut-être que je suis un peu trop dur, je crois, vise vraiment un tout petit peu à endormir les Africains. Pourquoi? Puisqu'on va à ces COP, on prend des engagements, on dit, voilà, on va aider les populations, n'est-ce pas, des pays les moins avancés, à développer un tout petit peu leur résilience, à développer vraiment des activités qui sont beaucoup moins productrices en gaz à effet de serre. Mais en fait, ce que ces populations produisent, ce que ces pays produisent, ce que les pays en voie de développement produisent, c'est déjà tellement insignifiant que si on devrait encore réduire, je crois que c'est pour compromettre pratiquement le développement de ces pays. Vous savez, on ne peut pas faire de développement sans production d'énergie. Ce n'est pas possible.
Absolument.
On doit dépenser. L'énergie est la source de vie. Toute forme de vie nécessite de l'énergie. Les plantes vivantes, les plantes qui sont aujourd'hui les seuls êtres vivants à capter, à pouvoir capter, n'est-ce pas, les différentes émissions de gaz à effet de serre, utilisent l'énergie solaire directement. Mmh. Elles peuvent utiliser directement l'énergie solaire. Mais nous autres, nous sommes obligés d'utiliser une énergie transformée. Et c'est pour ça, c'est l'énergie accumulée, n'est-ce pas, à partir de l'énergie solaire accumulée par des plantes, transformée en matière organique, que nous utilisons pour couvrir nos besoins énergétiques. Et aujourd'hui, on vient nous dire, écoutez, il faut réduire vraiment vos activités pour ne pas compromettre, n'est-ce pas, l'avenir. Bon, je crois que les pays en voie de développement ont suffisamment serré la ceinture pour vraiment, à moins que vraiment la ceinture ne soit coupée. Moi, j'étais présent vraiment à la COP de Copenhague. Bon, vous savez, j'ai participé à d'autres COP, mais il faut reconnaître que, bon, on va pour prendre des engagements qu'on ne respecte pas. Et moi, je crois que c'est les pays africains qui doivent vraiment essayer de développer, n'est-ce pas, des initiatives, de prendre vraiment leur destin en main pour essayer de voir comment eux-mêmes dégager vraiment des stratégies pour sortir vraiment, assurer leur propre développement. De toute façon, comme le disait un président que j'ai rencontré, paix à son âme, le président Tanja, qui est un visionnaire que je salue beaucoup, Il dit à l'Ousseini, les pays occidentaux disent qu'ils nous ont aidés, mais cette aide n'a jamais produit ses effets. Autant vraiment que nous-mêmes, on cherche à nous en sortir, s'ils veulent continuer, soi-disant, à nous aider, ils peuvent continuer. Mais l'aide qu'on nous donne, généralement, est dirigée. Et elle est dirigée, mais pas pour les objectifs forcément des pays en voie de développement. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même essayer de prendre vraiment les pays africains comme des partenaires et non comme des sujets. Je crois que malheureusement, nous subissons de plein et nous sommes les premiers à payer le tribut, n'est-ce pas, pour ce changement climatique. C'est les pays en développement qui payent le plus lourd tribut. Ce n'est pas les pays occidentaux. Et ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas la Chine.
Vous avez très très bien décrit la situation. Il faut bien aussi rajouter qu'en fait, en plus de ça, c'est que les matières premières de l'Afrique sont pillées. Pour dire le mot, dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont tirées et exploitées et puis envoyées vers le nord par les pays riches à des prix qui ne permettent pas aux pays africains de se développer. En plus, c'est-à-dire des endettements publics qui ont complètement plombé le développement en Afrique.
Non, je pense que dans le débat, on allait en revenir, puisque quand il s'agit de trouver des énergies alternatives, notamment, par exemple, sur les questions, par exemple, de produire de l'hydrogène pur. Je crois que là encore, c'est à l'Afrique qu'on va s'adresser pour pouvoir avoir vraiment les gisements les plus prometteurs, les plus en vue, pour pouvoir vraiment assurer la couverture énergétique, n'est-ce pas, de manière propre de la planète. Bon, là, on en reviendra. Et même là encore, comme vous l'aviez dit, il faut reconnaître que les termes de l'échange étant vraiment en défaveur des pays en développement, bon, à moins qu'il n'y ait vraiment un autre équilibre. Et cet équilibre-là, c'est lui qui pourra sauver vraiment ce monde. Le monde multipolaire pourrait peut-être sauver vraiment l'humanité.
D'accord.
Et je crois qu'il faudrait que chacun puisse prendre ses responsabilités, notamment en tout cas les pays africains. Moi, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, l'aide au développement tue le développement. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas coopérer. Il faut un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat dans lequel vraiment toutes les dividendes générés par une activité pourraient être partagés de manière équitable. Et on va en revenir peut-être dans la discussion entre les différents acteurs.
Bien. Alors là, par rapport à ça, professeur Bretedeau, une coalition de plus de 60 pays dirigée par les États-Unis et l'Union européenne, cherche à parvenir, selon eux, à un engagement visant à tripler la capacité mondiale en matière d'énergie renouvelable d'ici 2030. Seulement, comme je voudrais aussi qu'on approfondisse un peu la chose, sans aide sérieuse d'abord au développement, mais quand je dis aide, mais une aide réelle, hein, pas celle qui est donnée actuellement, voilà. C'est qu'on pille les pays africains avec le franc CFA, on brûlant toutes leurs devises. Après, on fait semblant de leur donner une aide au développement. Et même cette aide-là vient pour les entreprises des pays qui l'ont donnée. Par exemple, la France, ce sont les entreprises françaises qui profitent en Afrique.
On nous dit, écoutez, essayez de développer l'agriculture durable chez vous. Tout le monde sait aujourd'hui que l'agriculture, c'est vrai, c'est pour couvrir les besoins en alimentation, les besoins alimentaires des populations, assurer la sécurité alimentaire. Je ne parlerai pas de souveraineté alimentaire, puis ça c'est une autre question. Mais assurer d'abord la sécurité alimentaire. Mais pour assurer la sécurité alimentaire, vu que les populations rurales d'année en année sont réduites et vont dans les villes, et ces populations qui quittent le monde rural pour aller en ville, ces populations doivent être nourries. Et pour qu'elles puissent être nourries, il faut que ceux qui restent puissent augmenter leur capacité de production. Et cela ne va pas aller sans consommer de l'énergie.
Absolument.
Cela ne va pas aller sans vraiment essayer d'adopter des techniques beaucoup plus intensives. Et ces techniques beaucoup plus intensives produisent également des gaz à effet de serre. Et c'est ça le problème. On nous dit non, restez à votre agriculture de subsistance, agriculture durable, et on vient nous vendre des produits qui ne sont même pas naturels.
Oui, professeur Bretedeau, comme vous, vous êtes spécialiste justement de ces questions-là, et j'aimerais bien profiter de l'occasion. Est-ce que justement, prenons l'exemple des pays du Sahel, est-ce que c'est pas une aubaine d'avoir un peu de CO2 pour développer l'agriculture? La photosynthèse, c'est l'utilisation du CO2. n'est-ce pas?
Bon, c'est pour ça, oui, bien sûr. Vous savez, c'est ce que je disais quand j'étais encore très actif dans le domaine de la recherche, je le suis un tout petit peu encore, et on avait dans notre pipeline de développer des plantes en cétate qui ont une capacité d'absorption plus forte du CO2. C'est-à-dire voir comment, puisque vous savez, il y a essentiellement deux types de plantes au niveau de la photosynthèse. Il y a les plantes en C3 qui sont moins perméables, n'est-ce pas, au dioxyde de carbone, donc à certains gaz à effet de serre, et les plantes en C4 qui sont beaucoup plus perméables, donc qui absorbent encore beaucoup plus de CO2. Donc, l'un de nos objectifs, c'était vraiment de développer encore beaucoup plus les plantes en C4 pour pouvoir capter davantage de CO2. Mais ça, c'est vraiment assez complexe et ça demande beaucoup de technologies pour pouvoir le faire. Et nous avons déjà commencé ces travaux, mais évidemment, il y a des équipes encore après moi qui continuent. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut intensifier encore les recherches. Mais il faut reconnaître qu'au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas suffisamment de ressources humaines et celles que nous avions migrent malheureusement vers les pays occidentaux. Nous avons beaucoup de compétences scientifiques qui sont parties. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais ça devient un manque à gagner. C'est une fuite de cerveau qui n'est pas favorable vraiment au développement, n'est-ce pas, des États du Sahel et au développement de l'Afrique. C'est vraiment une perspective, une voie très, très prometteuse. Et je pense que les chercheurs y pensent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'avais sollicité qu'au niveau des indicateurs pour pouvoir vraiment faire une estimation, n'est-ce pas, de la production, une estimation sur les prévisions agricoles, j'avais demandé d'inclure des notions telles que la photopériode, qui est un facteur adaptatif. La plupart des variétés qui sont cultivées dans les pays occidentaux ne sont pas photosensibles. Or, la photosensibilité est un caractère adaptatif qui permet, n'est-ce pas, à la plante de réguler son système de production en fonction vraiment des changements climatiques.
Et c'est ça, je crois, qui peut aussi permettre, si on développe ce genre de choses, et donc le CO2 est nécessaire, de terraformer un peu tous les sols là, désertiques du Sahel et les transformer en terres arables
en changeant le
climat.
Kamal, vous touchez du doigt. Écoutez aujourd'hui, quels sont les espaces les plus importants où l'on pourrait vraiment essayer d'utiliser l'énergie solaire universelle? Vous savez, la première énergie au monde, c'est l'énergie solaire.
Absolument.
Et cette énergie solaire, elle est universelle. Toutes les autres énergies viennent après l'énergie solaire. Et le monde a été créé de telle manière que cette énergie solaire ne peut être utilisée que par les êtres végétaux, les êtres qui sont capables de faire de la photosynthèse, donc les plantes vertes. Elles sont les seules êtres à pouvoir utiliser cette énergie solaire universelle. Évidemment, aujourd'hui, avec les capteurs solaires, tout, on arrive à capter une quantité infinitésimale. Et aujourd'hui, les chercheurs estiment que moins de 2% de l'énergie solaire universelle est utilisée. Moins de 2%. Oui, 98% est perdu. Pour moi, c'est ce que j'ai dit. Imaginez que tout le Sahara soit couvert par des végétaux. Imaginez la quantité, n'est-ce pas, d'énergie qui va être récupérée et en même temps la quantité de dioxyde de carbone qui va être piégée. Voici les éléments fondamentaux. Puisque vous savez, chaque rayon solaire qui tombe sur le sol nu, sans végétaux, pour moi, c'est de l'énergie perdue. C'est exactement comme du pétrole qui brûle à l'air libre, qui ne produit absolument rien. Donc c'est pour ça que je dis, je ne veux pas en tant qu'agronome voir pratiquement même un seul rayon solaire perdu. Les photons contenus dans un rayon solaire peuvent produire de la matière organique, peuvent servir à nourrir l'humanité et en même temps capter, n'est-ce pas, le dioxyde de carbone.
Bien. Alors passons à la question suivante, professeur Brotodeau. Le manque d'investissement essentiel continue de constituer un obstacle, c'est pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, majeur à l'action climatique. Alors, lors du sommet COP27 de l'année dernière, les pays ont convenu d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, ce qui, selon les Nations Unies, nécessiterait entre 4 à 6 000 milliards de dollars d'investissement annuel, dont les énergies renouvelables, les infrastructures associées jusqu'en 2030. Et même si les investissements dans les énergies renouvelables, c'est le constat qui le dit, ont augmenté de 22% au premier semestre 2023, investissement total de à peu près 358 milliards de dollars par rapport au début de l'année précédente. Cela ne représente pratiquement qu'une faible fraction de ce qui reste encore nécessaire pour combler le déficit de financement. Bien. Alors ça, c'est pour les pays riches et tout le monde hein, qui s'engagent et qui ont pollué la planète et ainsi de suite et pillé les ressources d'une manière non mesurée et ainsi de suite. Bien. Alors, tenons compte de la situation actuelle de la majorité des pays africains qui ont besoin de développer une industrie et une agriculture de plus en plus intégrées et de plus en plus fortes. Ces États africains ont-ils vraiment intérêt à s'engager dans les politiques vertes que les Occidentaux eux-mêmes, qui les imposent, n'arrivent pas à financer?
Bon, effectivement, ces chiffres, c'est des intentions, ces gros montants, c'est des intentions. D'abord, ces intentions ne sont jamais respectées, ces montants ne sont jamais collectés. Et quand ces montants sont collectés, ils ne participent pas à des investissements structurants. Vous savez, aujourd'hui, ce dont l'Afrique a besoin, c'est des investissements structurants. C'est des investissements qui vont produire quelque chose. On sait où est-ce qu'il faut faire ces investissements structurants, mais puisque ces investissements structurants assurent une certaine souveraineté, bon, écoutez, vous savez, la géostratégie, certains dans leur philosophie de géostratégie ne voudraient pas de souveraineté, puisque la souveraineté voudrait dire qu'on n'est plus esclave. Et si on n'est plus esclave, on ne nous exploite plus. Mmh. Voici le vrai défi à relever aujourd'hui.
Bien sûr.
Et moi, je crois que avec aujourd'hui la mondialisation qui avance à grande échelle, avec le monde multipolaire qui se dessine, et nous espérons, de toute façon, ce monde multipolaire serait inéluctable. Qu'on le veuille oui ou pas, il va arriver. Pourquoi ? Puisque le mensonge sera toujours rattrapé par la vérité. Et le mensonge ne peut pas. Vous savez, la loi physique la plus élémentaire vous dit que pour qu'un système puisse exister, il faut qu'il soit en équilibre. Et si vous voyez que le système qui est en place, il rompt puisqu'il n'est pas en équilibre. Mmh. Un système qui n'est pas en équilibre ne peut pas exister. Voilà pourquoi aujourd'hui, le système de la colonisation, le système d'exploitation vraiment des pays africains, aujourd'hui, il est mis à nu et il est décrié par tout le monde, y compris par les populations occidentales. C'est vrai que les gouvernants ont une haute vision. Moi, je crois que je connais quand même un tout petit peu le monde et l'Europe. Vous savez, les populations de ces pays, c'est des gens adorables. Et ce que les gouvernants font est tout à fait opposé à ce que vraiment les populations souhaitent. Bon, ça, c'est une question. Et ils cachent à leur population, ces gouvernants cachent à leur population qu'ils exploitent le continent africain. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le professeur Al-Husseini Brotodo, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Avant de redonner le micro au professeur Al-Husseini Brotodo, j'aimerais recevoir durant cette petite pause Brahim Taharout, rédacteur en chef du quotidien algérien L'Expression. Il s'exprimera sur les enjeux de la réunion de la session extraordinaire du comité d'état-major opérationnel conjoint regroupant le Mali, l'Algérie, le Niger et la Mauritanie qui s'est tenu ce mardi 28 novembre à Alger.
Brahim Taharoubt, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir fait l'honneur de cette invitation.
Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Bien, alors Monsieur Taharoubt, vous qui êtes observateur averti de la chose algérienne et de toute la région du Sahel, j'aimerais donc avoir votre sentiment et votre appréciation sur la dernière réunion qui s'est tenue le 28 novembre à Alger du comité d'état-major opérationnel conjoint, le CEMOC, qui regroupe le Mali, l'Algérie, le Niger et la Mauritanie.
Effectivement, donc la dernière réunion du comité d'état-major opérationnel conjoint de CEMOC à Alger. Donc c'est l'Algérie qui succède au Niger à la tête de ce CEMOC. Mmh. C'est une réunion intéressante dans la mesure où elle intervient dans un contexte un peu, j'allais dire, électrique dans toute la région du Sahel. Ce que je veux dire par l'importance de cette réunion, d'abord sur le plan théorique, la sentence d'Afrique aux Africains n'est pas uniquement politique, n'est pas uniquement économique, mais aussi elle est sécuritaire. C'est-à-dire que les Africains, vu la conjoncture actuelle, n'ont pas d'autre choix que de mutualiser leurs efforts sécuritaires et le partage de renseignements dans le cadre de ce CEMOC. C'est pour justement répondre à une situation critique dans la région. Ce n'est pas des étrangers. Bon, il y a eu d'autres opérations, je rappelle, l'opération Barkhane, Serval et d'autres regroupements étrangers, mais en fait, les seuls capables, les seuls habilités à répondre à des situations sécuritaires dans l'Afrique, ce sont les Africains. Et c'est un peu l'objectif de ce CEMOC, qui bien sûr englobe la sécurité au niveau des mécanismes de défense, mais aussi du partage du renseignement.
Vous avez quand même évoqué une idée, la première idée que vous avez évoquée, elle est très importante, parce que ce CEMOC était un peu, disons, un peu, son action un peu molle, un peu réticente dans ses débuts de 2010, parce qu'il a été créé en octobre 2010, ça fait quand même 13 ans. Mais ce que vous évoquez, une chose très importante, c'est le changement du contexte actuellement. C'est-à-dire, il y a d'abord le fait que la France a quitté les pays du Sahel, les forces de Barkhane ont été chassées du Sahel. Il y a un changement dans dans ces régimes africains où l'on voit des tendances vers la souveraineté de ces pays-là, chose qui créait des problèmes et des réticences entre les différents pays du CEMOC, justement, avant, parce qu'il y avait quand même une certaine méfiance. Mais il y a un contexte maintenant qui est complètement favorable, justement, à une coopération plus resserrée dans le renseignement et la lutte antiterroriste, et pourquoi pas militaire. Alors, comment voyez-vous, justement, la possible évolution de ce CEMOC vers quelque chose de plus marqué, de plus engagé, même par exemple sur la question de créer des forces communes et ainsi de suite?
Eh bien, effectivement, il est venu après une période effectivement de passage à vide de ce CEMOC. Maintenant, la conjoncture a fait que il a été les événements l'ont secoué, donc il est, si vous voulez, remis au goût du jour, parce que effectivement il y a une nouvelle donne, et dans cette nouvelle donne il y avait des changements, il faut dire des changements à la tête des États, des coups d'État, et tout changement crée des situations nouvelles, et ces situations nouvelles demande un certain temps d'adaptation. On est dans cette situation parce qu'il y avait des vides énormes qui ont été créés, je cite, comme vous l'avez dit, le départ des forces françaises, mais aussi, rappelons, faut pas l'oublier, le départ de la MINUSMA,
oui,
au Mali.
Absolument, oui.
Absolument quelque chose d'incroyable, parce que la MINUSMA, je rappelle, c'est 9 000 personnes, dont 11 000 militaires. Vous imaginez un peu le... Mm-hmm. L'immense vide, 11 000 soldats, vous imaginez l'immense vide que ça crée, c'est 1,2 milliard de dollars de budget d'aide, et c'est la plus grande mission de paix des Nations Unies dans le monde. Et pour stabiliser toutes ces situations, ça demande un peu de temps, mais en tout cas, les Africains n'ont pas d'autre choix que de s'agglutiner autour de ce qui existe déjà. C'est le socle du CEMOC, donc ils n'ont pas d'autre choix parce que la situation est très dangereuse, la situation est sécuritaire, j'entends, il est préoccupante parce que nous avons vu des prémices, même des craintes dans la région qui sont d'abord des guerres ethniques. C'est une vraie crainte, un vrai danger. Il suffit d'un petit aiguillon pour que ça parte. Et donc, il fallait maintenant se retirer après des périodes de troubles, des périodes de doutes, des périodes d'attente, par créer par ces changements. Là, je crois qu'on est dans une deuxième phase. C'est la phase de l'opération, c'est la phase de l'action. Et c'est ce qui a été fait avec la réanimation du CEMOC à Alger.
Il y a quand même ce séjour-ci, quelque chose de très important qui s'est passé. C'est la prise par les forces armées maliennes de la ville de Kidal, qui était quand même une ville prise par les terroristes. Le Mali avec tout le retour en force et la montée en puissance de son armée. Il a réussi à reprendre son contrôle complètement, à chasser les terroristes ou à les éliminer. Et puis, il y a aussi le contexte de cette alliance entre les trois pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. À votre avis, ça donne pas mal de signes positifs qui pourraient encourager ce comité d'état-major opérationnel conjoint, qui est juste un comité d'état-major, à devenir vraiment une force opérationnelle dotée de moyens humains et militaires pour contrôler la sécurité dans la région du Sahel.
Effectivement, vous savez, quel que soit l'angle sous lequel on prend ce comité d'état-major opérationnel conjoint, en tout cas, il est une preuve que les Africains, comme j'ai dit au tout début de mon intervention, que c'est la sécurité des Africains, de l'Afrique, et elle appartient aux Africains d'abord. Pourquoi ? Rappelez-vous, l'Algérie qui a toujours refusé d'adhérer au G5 Sahel. On a fait toute une partie, on a fait un débat médiatique, sécuritaire, international, européen. Voilà, on a trouvé la solution miracle pour le Sahel, c'est pour la région sahélienne et pour l'Afrique, c'est le G5 Sahel. Or, l'Algérie, rappelez-vous, c'est écrit, l'histoire le retient, a toujours dit non, nous ne participons pas à ce G5 Sahel, puisque nous avons le CEMOC et a toujours défendu le CEMOC. Maintenant, la reprise de la ville par des forces maliennes, effectivement, c'est une autre preuve que les Maliens et les forces africaines peuvent se prendre en charge elles-mêmes, peuvent agir elles-mêmes. Rappelez-vous aussi, quand il y a eu la crise au Niger, ce que disait l'Algérie, on l'oublie peut-être, on est préoccupé par des détails, mais enfin, la première revendication essentielle de l'Algérie, c'était non à l'intervention militaire étrangère. L'Algérie a mis sur la table une initiative, elle a donné ce qu'elle a donné, mais on oublie que l'objectif essentiel, important, premier de cette initiative algérienne, c'était d'empêcher l'intervention étrangère, et c'est le cas. Maintenant, pour les détails, on peut en discuter, en débattre, discuter, mais enfin, l'objectif est atteint. Donc, finalement, les Africains, pour peu qu'ils se réunissent, pour peu qu'on les laisse se réunir, se prendre en charge, ils le font très bien. Et je pense que le CEMOC s'annonce, comme je l'ai dit, une nouvelle étape dans la prise en charge des préoccupations sécuritaires de toute la région.
Je vous remercie beaucoup, Brahim Takhroubt.
Moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir d'intervenir sur vos ondes. C'est vraiment un plaisir et merci pour le travail que vous faites.
Et j'espère vous retrouver une autre fois dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci beaucoup.
C'était Brahim Takhroubt, rédacteur en chef du quotidien algérien L'Expression. Il s'est exprimé sur les enjeux de la réunion du comité d'état-major opérationnel conjoint qui s'est tenu ce mardi 28 novembre à Alger. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. À présent, nous allons retrouver le professeur El Husseini Brotodo, fondateur du laboratoire d'agrophysiogénétique et de biotechnologie végétale de l'université de Katibougou, également ancien secrétaire exécutif du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Professeur El Husseini Brotodo, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Bien. Alors maintenant, j'aimerais bien soulever, mais ça c'est un cas particulier, qu'on peut après extrapoler à beaucoup de choses en Afrique. Bien, alors récemment, la réglementation de l'Union européenne qui vise à interdire la vente de produits issus de la déforestation a de nouveau fait l'objet de l'attention des médias, disons. Il y a une période de transition qui est encore en cours et elle durera jusqu'à décembre 2024. Cependant, il y a des tonnes de cacao en provenance d'Afrique, surtout de la Côte d'Ivoire et du Ghana, qui se trouvent déjà dans les entrepôts européens. Et si on décide que ce cacao ne répond pas aux nouvelles exigences, tous ces stocks peuvent être simplement détruits. Donc, la première question. Lorsque l'Europe a commencé à rencontrer des problèmes d'approvisionnement en gaz naturel en raison de ses propres sanctions anti-russes et du sabotage du gazoduc Nord Stream 1 et 2, les Européens ont commencé à acheter activement du bois de chauffage, sans se soucier de la préservation des forêts. Sans mentionner que les Européens aussi, qui ont tué le nucléaire de leurs propres mains, recommencent à utiliser à fond les centrales à charbon, ce qui n'est pas du tout, bien sûr, écologique, sans que les Verts ne disent quoi que ce soit. Alors, professeur Brotodeau, alors pourquoi se préoccupe-t-il tant des forêts africaines? Et l'Union européenne se bat-elle vraiment pour l'environnement ou elle représente tout simplement les intérêts des sociétés transnationales et fait du chantage pour baisser les prix du cacao? Et le cacao n'est qu'un exemple. On peut prendre l'exemple de l'or, on peut prendre l'exemple du diamant, on peut prendre du tétane, tout ce qui est matière première extraite en Afrique, qu'elle soit végétale ou non.
Vous savez, M. Kamal, ça c'est la théorie du double langage. En fait, on dit qu'on ne veut pas le cacao puisqu'il est produit mal, mais on veut le bois qu'il faut couper pour produire le cacao.
Oui.
Oui, c'est un peu contradictoire. Vous voulez qu'on déforeste pour pouvoir acheter le bois pour vous chauffer, pour l'énergie, et vous dites, bon voilà, nous ne voulons pas le café qui vient de cette qui sera planté après la déforestation. Ça, c'est quand même bizarre.
Absolument, oui.
Il faut quand même essayer d'être un tout petit peu plus logique. Mais comme je l'ai dit, vous savez, tout est question d'intérêt. Je crois que c'est les intérêts des firmes qui priment sur vraiment l'être humain, l'être social. Et je crois que nous devrons essayer dans nos stratégies de mettre l'homme au devant de toutes les situations, l'homme avant vraiment le matériel. Puisque de toute façon, l'homme est l'être qui a de l'affection, l'homme est l'être, n'est-ce pas, qui pense, c'est l'homme qui fait et c'est l'homme qui défait. Et donc, si notre planète aujourd'hui souffre d'une très mauvaise gestion, bon, c'est pensé par les hommes. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de déforester pour pouvoir produire. Il y a des espaces suffisamment libres aujourd'hui en Afrique et on peut protéger ces forêts, mais malheureusement, la protection aussi des forêts a un coût. Et oui, regardez, l'Amazonie, pour protéger l'Amazonie, ça a un coût. On dit aux Amazoniens de ne pas couper leur... C'est bien beau, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on va leur donner s'ils conservaient ces forêts pour pouvoir piéger le dioxyde de carbone? Qu'est-ce qu'on leur donnera en contrepartie? Pourquoi? Puisque, vous savez, le climat est une ressource mondiale, une ressource commune. Alors que le bois produit dans la forêt de Côte d'Ivoire, c'est le bois ivoirien. Même si, au regard des termes de l'échange, ce bois... Il n'est pas tout à fait pour les Ivoiriens. Ils vont, on va leur prendre leur bois à moindre frais. Et puis, au bout du compte, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. C'est malheureusement ça le problème aujourd'hui.
C'est-à-dire que même le bois part en Europe. Oui. Même le bois qui est produit à cause des déforestations part en Europe. Oui. Il n'est pas consommé localement.
Mais c'est ça. Mais bien sûr. Il n'est pas consommé localement, il est envoyé à l'extérieur. Et c'est ce que je dis. Donc c'est pour ça que je dis que c'est même pas pris au prix réel, c'est pris à vil prix. Je ne suis pas contre vraiment les échanges, je suis pour un partenariat gagnant-gagnant. Et je dis que toute filière de production dégage des bénéfices. Et les bénéfices dégagés par chaque filière devrait être réparti de manière équitable. Je ne dis pas égal, je dis équitable entre les différents acteurs de la filière. Il en est de même pour le cacao. Regardez, le cacao est produit par les producteurs ivoiriens, mais il ne profite pas aux producteurs ivoiriens. Il profite essentiellement aux grandes firmes qui en assurent la transformation et après qui s'en mettent plein les poches et après, le producteur ivoirien n'a que ses yeux pour pleurer. C'est la même chose pour tout, c'est la même chose pour le coton au Mali, etc., etc. Donc, toutes nos productions sont ainsi, ne bénéficient pas vraiment, il faut reconnaître. C'est vrai que Actuellement, les actions en cours dans les différents États, en tout cas dans certains États, montrent que on prend en compte de plus en plus les préoccupations, n'est-ce pas, des populations, l'intérêt des populations autochtones dans, n'est-ce pas, dans les négociations.
D'accord. Bien. Alors, pour la seconde question, professeur Brotodeau, ce qui est intéressant dans cette histoire avec le cacao ivoirien, c'est le fait que toute cette lutte européenne, soi-disant, entre guillemets, contre la déforestation a commencé après que les producteurs de cacao africains ont imposé une prime ou une sorte de taxe sur leurs matières premières, c'est-à-dire sur le cacao, au-delà du prix du marché fixé par la bourse de New York. C'est-à-dire que quand il y a une augmentation des prix, ils demandent à ce qu'ils soient, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'ils soient aussi bénéficiaires d'une sorte, quand il y a des surprofits, d'avoir leur part aussi dans ces profits. Alors, dans quelle mesure, justement, la répartition des revenus est-elle équitable dans ce secteur et qui profite le plus du cacao alors?
Mais elle n'est pas équitable. La répartition n'est pas équitable. C'est ce que j'ai dit. Mm-hmm. La répartition n'est pas équitable. Elle est très loin d'être équitable. Et c'est ce qui se passe à peu près pour toutes les cultures industrielles.
Le café, les arachides.
C'est-à-dire que ça soit toutes les cultures d'exportation, que ce soit le coton, que ce soit le cacao, que ce soit, en tout cas, toutes les cultures d'exportation, que ce soit la pomme cajou. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait vraiment développer des politiques vraiment pour pouvoir assurer une répartition équitable des ressources. Et je crois que cette répartition équitable permettra aux producteurs de faire des investissements structurants pour pouvoir consolider et améliorer sa production. Mais tant qu'il n'y aura pas ces investissements, le producteur ne pourra pas produire. Voilà. Mmh.
Bien, alors, quelle serait, à votre avis, dans ce cas, l'ampleur des conséquences pour les producteurs de cacao africains si le marché européen se fermait à eux, par exemple? À cause de ce chantage, et peut-être faudrait-il envisager d'autres marchés, comme la Russie, la Chine, l'Inde.
Il y a plusieurs options. De toute façon, la reconversion, elle est obligatoire. Et même si aujourd'hui, les Européens ne boycottent pas, avec, je crois, la mondialisation, avec la globalisation, et surtout avec le monde multipolaire qui se dessine, mais la nature ayant horreur du vide, les producteurs de cacao vont se tourner ailleurs. Si les Européens quittent, ils seront remplacés par quelqu'un d'autre. Ça, c'est automatique. Et je sais que les Ivoiriens, les producteurs ivoiriens sont suffisamment intelligents pour pouvoir savoir déjà comment s'adapter vraiment à la nouvelle situation.
Mmh. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on pose une question qui me semble fondamentale. C'est la transformation des matières premières africaines localement. Et je prends à ce titre l'exemple du cacao. On a la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a annoncé récemment qu'elle veut construire une usine de transformation de cacao.
Oui.
Alors, est-ce que ça ne serait pas mieux toute la plus-value, les profits exorbitants que les firmes occidentales du Nord gagnent grâce à la transformation et aux technologies de transformation, est-ce que ça ne serait pas mieux de garder cette plus-value dans les pays africains pour leur donner les moyens de développement en créant des usines, justement, ou une industrie, une technologie de transformation des matières premières, qu'elles soient végétales ou non?
Bon, je crois que au lieu de partir au cacao, moi, je vais commencer par le coton.
Oui.
Allez, le cacao, au moins, c'est un produit alimentaire. Le coton ne se mange pas. Mais imaginez que tout le coton qui est produit chez nous, 98%, 99% est exporté.
Wow.
Pour aller être transformé ailleurs et revenir chez les Maliens. Écoutez, aujourd'hui, les Maliens s'habillent avec des cotonnades. Et ces cotonnades sont plus confortables que les synthétiques qui se trouvent sur les marchés occidentaux. Donc c'est pour ça que je dis, si le continent africain, si les politiques africaines pouvaient mettre l'accent sur la transformation de nos produits sur place, je crois que l'économie se porterait encore mieux. Non, je ne parle pas de la création d'emplois, mais je crois que toutes les petites activités qui vont se développer parallèlement au développement de ces industries sont des activités génératrices de revenus.
Absolument. Et c'est de pour richesse. Ça que je dis,
il faudrait réellement que nos politiques permettent le développement et la transformation de nos produits sur place. Même si, dans un premier temps, on ne peut pas assurer la transformation à 100%, mais il faudrait qu'elle soit assurée d'abord à 50% pour aller vers les 100%.
De ce point de vue, professeur Al-Husseini, Bretodo, le développement local d'industrie de transformation et de production à très forte valeur ajoutée va nécessiter forcément la formation de beaucoup d'ingénieurs, de beaucoup de techniciens et avec des politiques d'investissement dans ce genre de direction pour leur donner l'envie de rester sur place et de travailler et d'être d'abord pour alimenter le marché national, les marchés nationaux africains, et puis exporter le surplus vers l'extérieur. Alors, en tant qu'académicien, professeur Bretodo, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu quelle est la situation justement de tous les instituts de formation et d'enseignement supérieur ou même de la formation professionnelle? Est-ce que peut-être une coopération avec la Russie, avec la Chine pourrait aider justement les pays africains dans ce sens?
Vous savez, les ressources humaines africaines sont importantes et elles sont de qualité. Les ressources humaines africaines. L'Afrique détient peut-être, je dirais, parmi les meilleurs cerveaux dans le monde aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous les citer, vous les connaissez. On connaît tous les Africains qui brillent, n'est-ce pas, par leur qualité intellectuelle, par leur qualité scientifique. Ils sont partout, ils sont en Europe. Et ils font le bonheur de ces États. Et d'ailleurs, qui les gardent jalousement, qui ne voudraient même pas qu'ils reviennent. Mais qui n'ont même pas un peu de pitié pour ces Africains qui n'ont pas de pitié pour leur pays d'origine. Vous voyez ? C'est ça le problème. Or, comme vous l'avez dit, pourquoi aujourd'hui il y a cet exode-là vers l'Occident ? C'est pour aller chercher le bien-être. C'est pour aller chercher du travail. Mais la transformation des produits, des ressources, qu'elles soient naturelles ou des ressources agricoles qui sont naturelles aussi, dans nos pays, permettra de créer des emplois. Et ces emplois vont réduire de manière drastique l'exode des populations. Aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, il y a un regain vraiment d'intérêt pour investir dans la formation des personnes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la qualité des ressources humaines est en train de remonter à la base. Je parle depuis la base, depuis le fondamental. Et on a des jeunes aujourd'hui africains qui sont tellement ingénieux et qui participent vraiment de manière directe vraiment au développement de leur pays.
D'accord. Je vous remercie. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Professeur Al-Husseini Bretodo, je vous remercie encore une fois pour toutes ces informations et ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet.
Merci à tous vos auditeurs. Merci beaucoup, Kamal.
Merci beaucoup. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était le professeur Al-Husseini Bretodo, fondateur du laboratoire d'agrophysion génétique et de biotechnologie végétale de l'université de Katibougou. membre fondateur de l'Académie des sciences du Mali et grand officier de l'Ordre national. Il est également l'ancien secrétaire exécutif du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.